La bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. 10 épisodes qui retracent la saison 2 des racines de la créativité. Je suis Pascal Roby, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de la bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets favoris, mais bon, tous les sujets qu'on va aborder cet été sont des sujets que j'adore. Aujourd'hui, on va parler d'écriture de livres. Écriture et livres, deux sujets que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Et cette année encore, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs qui ont partagé cette même passion que nous avons, les invités et moi, mais peut-être que toi aussi, peut-être que toi aussi tu adores l'écriture, toi aussi tu adores les livres, et peut-être que toi aussi tu adores écrire des livres, si ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave, tu es quand même le bienvenu. Et tu vas écouter comment 5 auteurs ont réussi à écrire et surtout publier leurs livres. Mais d'abord, abonne-toi aux racines de la créativité, parce que ça fait toujours plaisir. Pour cela, tu peux t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Encore.fm et toutes les autres plateformes inimaginables. Ça se trouve en dessous, donc tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ou bien, si tu n'as vraiment pas envie de rater un nouvel épisode tous les vendredis à 18h, tu peux tout simplement t'abonner à la newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors, aujourd'hui, tu le sais, peut-être que tu le sais pas encore, mais je vais me représenter pour les personnes qui me découvriraient pour la première fois. Je suis Pascal Roby, je suis auteur de plusieurs livres, dont pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, un petit pavé de 390 pages sur la créativité. Et j'ai également co-écrit un roman qui s'appelle « Les gardiens de l'espoir » et un autre livre qui s'appelle « Je comprends rien au personal branding ». Et bon, comme tu peux l'entendre, les livres et l'écriture, c'est quelque chose qui accompagne ma vie depuis des années. Et j'avais vraiment envie d'inviter des auteurs à parler, à discuter et à échanger sur cette passion qui est l'écriture de livres. Et ça tombe bien parce que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé sur plusieurs auteurs qui soit adoraient écrire, soit qui se sont lancés dans le challenge d'écrire un livre. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc notamment, tu vas découvrir est-ce que c'est compliqué d'écrire un livre à deux mains? Et là, c'est le camarade Séverin Sauzède qui va répondre à cette question, parce que Séverin co-écrit ses livres avec le camarade Dimitri Carlet. Tu vas également découvrir le processus créatif de Valentin Decker sur comment il a écrit ses deux premiers livres. Ensuite, tu vas savoir comment le camarade Christopher Piton a écrit son livre avec ses bêta-lecteurs. Et tu vas découvrir comment il est possible d'écrire un livre avec des lecteurs qui n'ont pas encore acheté ton livre. C'est quand même génial. Et enfin, tu vas découvrir comment le camarade Romain Rivière a écrit son premier roman, et ça notamment grâce à un voyage en train qui l'a énormément inspiré. Mais d'abord, tu vas savoir comment le camarade Dimitri Carlet a écrit son premier livre, et a ensuite décidé d'en faire sa principale activité. C'est parti.
J'ai tenté plusieurs choses. Au départ, c'était vraiment, je me suis dit, depuis longtemps, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et je suis trop frileux. En fait, moi, j'ai vraiment une aversion au risque. Et donc, j'ai commencé le parcours tout tracé. J'ai fait une école d'ingénieur alors que j'aimais bien le français et l'anglais. Enfin bref, pour avoir un job, pour avoir une situation, pour me dire on peut remplir le frigo, on peut avoir certaines bases. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, il y avait d'autres choses qui remontaient. J'avais de l'envie d'entrepreneuriat. J'étais persuadé que c'était soit l'un ou l'autre. Un jour, j'ai découvert Chris Guilbeault et Nick Lauper en 2016, je crois. qui m'ont juste ouvert les yeux que c'était possible d'être à la fois salarié et entrepreneur, que rien ne t'en empêchait, sauf contrat particulier. Et donc, j'ai commencé à creuser ça. Après, j'ai découvert Chandler Bolt, qui... Alors ça, c'était au chaud, en néonat, mon troisième gamin, et j'ai lu son livre par hasard, qui s'appelait Published, et ça a été la révélation. Je me suis dit, bah ouais, ça a l'air facile de publier un livre. Allez hop, je me lance. Et puis, depuis, voilà, le quotidien, c'était à la fois de l'entrepreneuriat, de l'auto-édition, jusqu'à il y a le mois prochain où j'ai posé une rupture conventionnelle et pour vraiment me focaliser sur l'auto-édition.
Bah écoute, très très bien. Ce que je te propose, c'est que on va remonter en arrière. Alors rassure-toi, on va pas parler de l'enfance, mais on va parler justement du moment. Tu l'as expliqué en fait quand t'es en néonat, et en fait t'as la révélation dans le bouquin en fait donc Published de voilà, c'est Chandler Bolt, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué en fait quand t'as lu ce bouquin?
Bah, vraiment, ce qui m'a marqué et ce que je répète assez souvent maintenant, parce que ça m'arrive d'accompagner aussi des gens qui veulent se lancer dans l'écriture d'un bouquin, c'est que ça m'a désacralisé l'objet livre, en fait. Et j'ai trouvé que son approche super terre à terre et super sympa. En gros, c'est vraiment le bouquin, c'est un plan d'action en 3 mois qui te dit, en 30 jours, voilà, tu suis toutes ces étapes-là, tu auras écrit le premier jet. 30 jours plus tard, tu auras un livre qui est complètement édité, relu, corrigé, prêt à publier. Et troisième étape, pendant 30 jours, tu vas le lancer, faire la promo et puis essayer d'optimiser tes ventes, pas pour juste l'argent, mais pour te dire ce que tu as écrit, ça va potentiellement impacter le plus de monde possible. Et donc, en fait, c'était vraiment cette approche très terre à terre, basique. Je me suis dit, ouais, c'est un plan d'action. Moi, je suis ingénieur à la base, donc je me suis dit, voilà, ça me parle. Tiens, je tente le coup, quoi. Et puis tout simplement, je me suis lancé dans l'écriture de mon premier bouquin, qui a été un beau fiasco, mais qui a été le début de à tout ce que je fais maintenant.
Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, enfin, bon, je rencontre énormément de personnes, voilà, qui écrivent leurs bouquins et qui finalement tombent un peu en amour en fait avec ce premier livre en fait qu'ils veulent écrire en fait. Ils mettent tellement d'investissement, il y a tellement, tu vois, d'appréhension, de peur, de est-ce que je dois le faire, je sais pas par où commencer, enfin, il y a beaucoup d'hésitation. Et finalement, toi, t'as eu une démarche qui est mais totalement à l'inverse, qui est finalement bon, bah écoute, apparemment ça n'a pas l'air si compliqué que ça. On va suivre le plan. Moi je suis ingénieur donc c'est cool, ça m'arrange bien. Étape 1, étape 2, étape 3.
C'est ça.
Et puis ben,
C'est
on
un peu
voit
un
ce que ça
cliché pour
donne.
les ingénieurs, hein. Je m'excuse auprès des ingénieurs. Ils ne sont pas tous comme ça.
Mais on les aime, hein, rassure-toi, on les aime bien, et ils sont cool, hein, donc. D'ailleurs, j'ai un de mes anciens invités, Pierre Mézières, pour ne pas le citer, qui a fait une école d'ingénieur, qui était ingénieur, tu vois, et aujourd'hui il est coach, voilà, il est coach, donc être ingénieur, ce n'est pas une tare. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt que autant il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être une approche, on va dire, émotionnelle de l'écriture du bouquin, et finalement. Toi, l'approche que tu as, elle est finalement extrêmement rationnelle.
Exactement. Et après, elle est devenue très émotionnelle rapidement parce que, mine de rien, alors bien sûr, alors c'est un livre à l'américaine. Moi, j'adore Chandler Bolt. Hein. Franchement, tout ce qu'il fait, on ne trouve pas le même contenu en France. Et d'ailleurs, c'est un des points qui m'intéresse moi en ce moment et qui me motive. C'est que, effectivement, il te vend le truc. Tu es persuadé que tu vas publier un best-seller en 3 mois. Bon, malheureusement, c'était pas un best-seller, déjà, pour commencer. Et puis ça a mis plus que 3 mois, ça a mis 6 mois. Mais je pense que tu vois, si je n'avais pas eu ce canevas-là et ce plan d'action, eh ben, j'aurais peut-être mis 12 mois, 18 mois ou une vie entière à me dire, ah, j'aimerais bien publier un jour un livre. Là, au moins, je me suis focalisé sur un objectif. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif parce que, effectivement, plus tu écris, plus tu mets de toi dedans, hein, parce que ça devient quand même un projet prioritaire. Et plus tu te dis, mince, j'ai passé déjà 6 mois de ma vie, comment je vais faire pour que les gens puissent au moins, que moi au moins je sois au clair si c'est tout pourri ou si c'est bien, mais pour savoir, il faut qu'au moins des gens le voient. Donc enfin bref, du coup, je suis passé par pas mal d'étapes. Donc effectivement, au tout départ, c'était ça. Ce qui m'a lancé, c'est le côté, ok, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu peux déterminer un plan d'action, tu peux le détailler jour par jour presque. Et puis tous les jours, tu sais ce que tu as à faire, puis à la fin, tu vas bien y arriver. Après, bien sûr, ça devient plus émotionnel parce que quand tu as mis tes tripes là-dedans, tu as mis du temps, tu as mis tes connaissances, ou en général, quand tu écris un bouquin, c'est que tu as envie de passer un message aussi. Et forcément, tu te dis, comment je vais faire pour que les gens le voient déjà, ou est-ce que les gens vont le voir? Et puis, à un moment donné, tu publies, tu appuies sur le bouton publier, et à ce moment-là, il est très émotionnel. Donc, il est plus du tout rationnel et pragmatique, il est beaucoup très très émotionnel, et tu te dis alors qu'est-ce qui va se passer? Tu appuies sur ce bouton-là. Bon, en l'occurrence, pour moi, c'était comme disent les Américains, cricket. Donc, il s'est pas passé grand-chose en fait, à part un bruit de désert pendant quelques mois. Et comme tu dis en fait, hein, ce premier livre, souvent il a une charge émotionnelle importante, et le côté positif, c'est que ça m'a permis de l'évacuer pour me dire, ok, maintenant comment je fais? J'ai envie de continuer, ça m'a plu. Mais voilà, mon but, c'est aussi que les gens lisent mon livre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment y arriver? J'ai écrit mon livre de cœur, en fait, c'est un peu ça. Souvent, c'est ça, le premier livre, c'est ton livre de cœur, celui qui te tient à cœur et t'as au fond de toi, il sort. C'est rarement celui où tu optimises vraiment tout ce qu'il faudrait optimiser, et en particulier le marketing de livres, parce que moi, c'est vraiment là-dessus que je mets le curseur pour les gens que j'accompagne, parce que c'est souvent ce à quoi on pense en dernier, et malheureusement, il faudrait, pour moi, y penser dès le début. Et donc, ça m'a permis, voilà, d'ouvrir mes chakras, on va dire, puis de me dire, ok, maintenant, ça c'est fait, c'est évacué. Et c'est aussi pour ça que j'accompagne principalement des gens qui ont déjà publié, en fait. Parce que je ne me sens pas à une grande valeur ajoutée. Les gens ne sont pas super réceptifs souvent quand c'est le premier livre. Et ils ont envie de faire beaucoup de choses un peu à leur idée. Ils sont moins réceptifs sur certaines choses qui sont quand même très axées marketing, et en particulier marketing digital de nos jours. Et donc, en général, je sais que j'arrive beaucoup plus facilement à les convaincre quand ils ont déjà publié, qu'ils ont déjà vécu ça et qu'ils ont compris que, bon, ok, il y a autre chose à faire en fait.
L'écriture de livres a commencé, elle, en 2020, mais justement, c'est marrant, suite à, finalement, à la suite d'une découverte sur 5 € avec la rédaction web, puisque j'ai rencontré Dimitri, qui est maintenant mon co-auteur et ami, avec qui on fait les 400 coups, on écrit des livres, etc. En début 2019, même en 2019, je savais pas qui c'était, je le connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de lui. Et en fait, c'était un client là-bas, c'était un client de rédaction web qui avait commandé un article que je suis pas prêt d'oublier sur les lipides, où justement, on en parlait de Wikipédia. J'avais épluché Wikipédia sur les articles sur les lipides et les types de lipides, et j'avais regardé des formules mathématiques de comment se présente la forme des lipides pour lui faire un article. J'avoue qu'il m'avait donné, des sueurs froides, celui-là. Mais bref, il avait été très content, et ensuite, de fil en aiguille, voilà, il m'a passé une autre commande, puis une autre, puis une autre. Et on en est venu à, voilà, ce lien d'amitié, et Dimitri, qui a toujours plein de projets en tête. Et il avait déjà écrit des livres, et il s'est dit qu'il en referait bien d'autres, mais ça le tentait bien en fait de faire cette aventure à deux, quoi. Et vu qu'il avait un bon feeling avec moi, il m'a dit, ça ne te dirait pas qu'on écrive des livres? Alors moi, j'étais plutôt tétanisé au début. Je dis, mais écrire des livres, mais tu n'y penses pas, pauvre fou, je suis totalement incapable de faire ça, c'est pas parce que je suis rédacteur web que je peux écrire des livres, comme si ça avait un rapport. Et parce que je me sentais aucune légitimité à faire ça, tu vois, j'avais jamais écrit de livre. J'ai des articles, c'est une chose, mais un livre quand même, c'est du sérieux, etc. Bon, alors finalement, il m'a convaincu, il a balayé toutes mes objections, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre en fait écrire un article et écrire un livre? Si ce n'est qu'un livre, c'est plus gros, quoi. C'est pareil, tu fais des recherches, tu fais un plan, tu fais une structure cohérente, tu donnes des arguments, et voilà, quoi. Et bref, c'est comme ça qu'on a écrit notre premier livre en mai 2020, et qui est 7 techniques pour se lancer en rédaction web. Et justement, qui est un gros témoignage de toute mon expérience de l'année passée, de 2019, sur 5 € et en rédaction web en général, quoi. Et voilà, ça c'était donc en mai 2020, notre premier 7 techniques commun, parce qu'on a une série qui s'appelle 7 techniques pour, et puis ensuite il y a différents thèmes. Pour améliorer son référencement naturel, pour lancer son side business, pour gagner du temps. Et donc le premier était en mai, enfin le premier qu'on a fait ensemble, parce qu'il en avait écrit un sur le premier de la série qui était dédié au référencement. Il avait écrit tout seul en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, on a sorti cette technique pour se lancer en rédaction web en mai 2020, cette technique pour lancer votre site business en juillet 2020, et là on a sorti cette technique pour gagner du temps en décembre 2020. Donc on a un rythme voilà, plutôt soutenu de... Enfin, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas en 2020, voilà, on a sorti 3 livres. Sachant qu'à la base, on était parti sur un... Enfin, surtout Dimitri, parce que lui, il a toujours les yeux plus gros que le ventre. Lui était parti sur 5 livres en 5 mois. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, je suis tombé de ma chaise. Hein, et il était totalement fou furieux, en fait, hein, inconscient plein. Et bah, ma foi, on n'y a pas exactement réussi, encore qu'on a aussi... On n'était pas loin, parce qu'on a quand même ressorti une V2, une réédition d'un livre gratuit qui s'appelle « Cette technique pour augmenter vos revenus ». Donc, c'est pas un nouveau livre, mais quand même beaucoup de boulot qu'on a fait dessus pour le rééditer. Donc, on a quand même fait, pour ainsi dire, 4 livres en je sais pas, 6 ou 7 mois. Donc, bon, c'était quand même pas si mal, quoi.
Alors je confirme, hein, donc moi pour avoir écrit pour avoir écrit donc un roman à
donc tu parlais à 4 mains, nous on l'a écrit à 6 mains.
6, ouais
ouais, on a écrit un roman à 6 mains, et pour avoir écrit un livre tout seul, donc moi j'ai pris 28, il m'a fallu 28 semaines, mais c'était pas voilà, moi c'était un gros livre puisqu'il fait
392 pages. Donc, ouais.
Ah oui, bon, eux ils sont pas aussi gros quand même.
Ouais. Mais alors justement, bah écoute, on va, bah là, tu vois, donc on va entrer dans le vif du sujet, parce que voilà, tu nous as expliqué en début de podcast que bah, aujourd'hui, voilà, tu souhaites réduire, on va dire, tes missions de rédaction web et vraiment plutôt te consacrer à l'écriture de livres. Bah, ce que je te propose, bah, c'est qu'on entre vraiment dans le cœur d'activité, dans le cœur du réacteur, et on va parler justement de l'écriture de livres. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, vous êtes 2 pour écrire les livres. Comment ça se passe?
C'est une question qu'ils nous posent souvent, et du reste, ça va peut-être te faire rire, mais on n'est pas loin de se la poser nous aussi, à vrai dire. Parce que il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de règles fixes, à vrai dire. Il y a... Bah, ceux qui ont lu notre premier livre sur rédaction web, qui me connaissent un peu, ils ont sans doute vu que c'est beaucoup moi qui écris, parce que bah, c'est beaucoup mon histoire, quoi. Et inversement, il y a d'autres livres où c'est beaucoup Dimitri qui écrit, parce que c'est plus ses spécialités. Donc on n'a pas un plan de type toi tu vas faire l'introduction et la partie 1, 2, 3, et puis toi tu vas faire la partie 4, 5, 6, tu vois, c'est... On se partage les tâches, mais à tout point de vue, il y en a un qui peut faire l'introduction, et l'autre le cœur du livre, et... pour ce qui est du marketing, sur un livre, il y en a un qui va écrire les mails, sur le livre d'après, ça va être l'autre. Enfin, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas une coopération arithmétique 50-50, quoi. C'est un peu en fonction de nos affinités, de ce qu'on a envie de faire ou de pas faire chacun, en fonction de nos désirs du moment, des sujets, etc., quoi. Je sais pas si ça répond trop à ta question.
Bah, en fait, moi, ça me parle beaucoup, parce que pour l'écriture du roman, et donc là, actuellement, on est en train d'écrire le tome 2. Chaque fois, on me pose la question, mais attendez, vous avez écrit un roman à 3 auteurs. Bah ouais, mais comment vous avez fait? Bah, en fait, c'est très fort, mais on a exactement la même réponse. Bah, je sais pas, bah écoute, il y en a un de nous trois, il a commencé un chapitre. Puis après, on se dit, l'autre, quand il a fini, il dit, bon, ben, on regarde s'il y a des corrections, si on est OK avec l'histoire, on fait, bon, ben, qui c'est qui enchaîne? Et à chaque fois, bon, c'est, bon, ben, attends, j'y vais, là, ça m'inspire, j'y vais. Je dis, OK, ben, vas-y. Et après, ben, et ainsi de suite. Et même parfois, ça nous arrive, sur un chapitre, de faire, attends, là, j'arrive, mais j'arrive pas à avancer. Ben, attends, moi, ça m'inspire bien, je vais continuer, tu vois. Et à un moment donné, on arrive au bout de, enfin, on continue le chapitre, à un moment donné, je fais putain, j'arrive pas du tout à enchaîner. Et là, il y a le troisième qui arrive. Oh, bah attends, c'est bon, attends. Moi, je sais comment on peut enchaîner, et on termine. Et donc voilà, ça donne. Parfois, on a des. Parfois, voilà, ça, on peut écrire 2 ou 3 chapitres. Parfois, on en écrit qu'un seul. Parfois, on écrit des bouts. En fait, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle, c'est ça. La seule règle qu'il y aurait, et que je pense on essaye de suivre, j'estime avec un relatif succès, c'est que. À la fin, le livre soit cohérent, quoi. Qu'on se dise pas d'un chapitre à l'autre, ah ben tiens, ça n'a plus rien à voir, le ton ou la tournure des phrases, etc., qu'on se dise pas tiens, ça a changé de braquet en cours de route. Mais ça, je pense que ça se voit pas dans nos livres, parce que voilà, on s'est accordé nos violons, quoi. On s'est accordé nos violons, et puis chacun de toute façon relit tout ce que fait l'autre X fois, donc à la fin, je pense que ça fait un tout cohérent, quoi.
En fait, si tu veux, moi je suis parti du principe que j'allais écrire mon livre seul, tu vois, comme un ermite dans ma pièce de 10 mètres carrés, et que j'allais pas ressortir de cette écriture-là tant que j'avais pas fait le premier jet, tu vois. Vraiment dans cette optique de je crée mon livre d'un coup et on verra ensuite. Et finalement, c'est début juillet, quand je suis rendu à peu près à 80% d'écriture de livre, que là, je vois passer un email d'Alexis Michela, qui est aussi lui en train d'écrire un bouquin, et qui justement avait le projet de pouvoir en co-écrire le livre avec une communauté de lecteurs. Et je me suis dit, waouh, c'est vachement intelligent, ça lui permet justement d'avoir des feedbacks directs, de pouvoir créer un bouquin, on va dire, plus sur mesure, qui est encore plus adapté à la demande, avant même qu'il soit sorti. Et je me suis dit, ça peut être vachement intéressant, moi, de m'en inspirer, mais pas de faire la co-écriture, mais de faire de la co-relecture, parce que j'avais quasiment écrit l'intégralité du bouquin. Donc c'est là que je me suis dit, allez, j'envoie un email à l'ensemble de mes abonnés, et voilà, je leur propose justement de rejoindre l'aventure de la relecture, et puis je verrai où ça m'amène. Et j'étais vachement surpris parce que finalement il y a plus de 50 personnes qui ont rejoint l'aventure. Et je me suis dit, waouh, maintenant il va falloir que je m'organise. Comment je fais pour que ces 50 personnes-là puissent me faire des feedbacks sans pour autant que bah, après moi je ne fasse qu'uniquement bah, là, tu vois, de la lecture de commentaires, de retours, etc. Donc c'est là que j'ai décidé vraiment de scinder, si tu veux, ces 50 et quelques personnes en plusieurs groupes de relecture. Donc j'ai constitué 12 groupes d'environ 4 personnes pour la relecture, et chaque groupe avait son propre fichier Google Docs. Donc ça me permettait, moi, de gagner en lisibilité. Parce que tu imagines, plus de 50 personnes sur un seul même fichier à mettre des commentaires, ça serait illisible. Surtout que sur les deux premiers chapitres, j'avais eu plus de 800 commentaires. Alors je ne laisse même pas imaginer sur l'intégralité d'un bouquin.
Ah ouais, en effet, purée. Juste pour les deux premiers chapitres. Parce que les deux premiers chapitres, tu les avais partagés en fait à tes abonnés ou c'est ça, ouais.
Ouais, en fait, si tu veux, le deal, c'était vous relisez deux chapitres par semaine, et chaque vendredi, moi, je vous mettrai dans le Google Docs les deux chapitres suivants. Ce qui fait qu'en gros, ils avaient une semaine pour me faire des retours. Et du coup, ils me faisaient des commentaires sur le Google Docs. Après, moi, je répondais à ces commentaires-là. J'expliquais si telle ou telle remarque était pertinente. Puis, en plus de ça, ça permettait aussi de créer un lien avec cette communauté-là. Et par contre, le seul souci, c'est que finalement, tu n'avais que 4 personnes qui laissaient des commentaires sur un seul même fichier. Et il n'y avait pas vraiment, on va dire, de communication de groupe avec ces plus de 50 personnes-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un groupe sur LinkedIn privé où justement tout qui permettrait à tous les membres de pouvoir débattre sur le chapitre et sur les concepts en un seul et même lieu. Mmh. Et du coup, ce qui permettait justement aux personnes de laisser des commentaires sur le Google Docs, mais en plus de ça, de pouvoir débattre avec toutes les personnes qui n'avaient pas dans leur groupe, en fait, pour justement croiser les idées, connecter les idées et avoir une sorte d'émulation collective. Ce qui fait que ça m'a permis, moi, de pouvoir récupérer à la fois des idées sur les Google Docs et en même temps d'avoir de voir émerger de nouvelles idées suite aux débats, aux échanges qu'il y avait dans ce groupe privé. Ça m'a permis après, à la phase de réécriture, de me replonger dans tout ça, d'écouter vraiment les impressions, mais pas d'accepter toutes les remarques. C'est là où en fait il faut faire attention, c'est se dire, ok, t'as plein de conseils qui te sont donnés, mais ce qui est le plus important, c'est d'écouter les impressions, le ressenti, mais pas forcément d'appliquer tous les conseils, parce que finalement ça va dénaturer ta propre vision, tes propres propos. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai recueilli en fait tout ce feedback-là, que j'ai fait la V2, et après avec l'éditeur, il y a une relecture, et là j'ai fait une V3, et ce qui fait que finalement le livre final a une meilleure saveur et beaucoup plus abouti, parce qu'il y a eu tous ces feedbacks-là qui étaient précieux, et d'autant plus que les personnes qui étaient dans ce comité-là faisaient partie de mon cœur de cible et de mon avatar. Donc on en revient encore aux fondamentaux.
Ouais, donc oui, donc ça c'est bon, c'est aussi là aussi ta grande force, je pense, au départ, c'est qu'à mon avis, tu avais ta communauté au départ, ta petite tribu qui t'a suivi, et puis en plus, enfin, ça a été une grande aide. Et j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que tu ne te laissais pas en fait, enfin, tu t'es dit, ok, ils me donnent leurs impressions, mais ok, je veux pas me laisser en fait influencer par leurs impressions, je veux vraiment garder en fait les trucs en fait qui me semblent plus pertinents pour pouvoir faire une V2.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai accueilli avec grand plaisir le ressenti, les impressions des gens, parce que tu vois, c'est une émotion, et ça, bah, quand tu lis un livre, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Et moi, je voulais un maximum que ça plaise, tu vois, à ce lecteur type. Et par contre, c'est les conseils qu'on me donnait que là, je prenais vraiment du recul pour être sûr que ça n'influence pas, en fait, mes décisions sur, ok, ça, je l'ai inclus dedans, ça me semble pertinent ou pas. C'est là où là, je laisse incuber pour pas prendre tout pour acquis. Et pour pas dénaturer bah, mon livre en fait au final.
Le premier, je l'ai écrit juste avant d'arriver chez Live Mentor, quand j'étais encore étudiant. Je l'ai écrit parce que j'avais envie de matérialiser, de mettre par écrit vraiment toutes les idées, toutes les pensées, tous les concepts que j'avais lus et écrits depuis 1 ou 2 ans, depuis ce fameux stage à la banque. Tu vois, c'était un peu un moyen pour moi de faire une grosse synthèse de tout ça. Et donc, en fait, je l'ai écrit quand j'étais notamment à Barcelone en stage, je me rappelle. Et tous les soirs après mon stage, j'allais au café, je m'asseyais tout seul et j'écrivais. Et j'aimais beaucoup ça. Tu vois, c'est à la fois très long, mais aussi très plaisant, je trouve, de sortir tes pensées. Et le deuxième, je l'ai écrit effectivement en parallèle de Live Mentor, où là, c'est pareil. Là, en plus, le CDI, c'est plus intense qu'un stage. Donc j'ai dû vraiment m'organiser pour dédier des soirées, des week-ends à l'écriture du bouquin. Mais c'était pareil, c'est quelque chose qui m'épanouit. Tu vois, je le vois pas vraiment comme du travail, mais c'était vraiment quelque chose qui me rendait heureux. Et puis à chaque fois, les bouquins que j'ai écrits, c'est des bouquins que j'aurais aimé lire. Le deuxième, Exposition créative, c'est, tu vois, on en parlait un peu avant, mais c'est un bouquin que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à créer mes premiers projets. Et donc, en fait, bah, je m'adresse aux gens qui font des projets créatifs. Et je leur dis, bah voilà, je leur dis plein de trucs, mais le principal angle du bouquin, c'est de dire que ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Et donc, en fait, c'est toi qu'il faut arriver à dompter, c'est tes peurs, tes doutes, pour aller au bout du projet. Et donc, parce que moi, bah pareil, je doutais, j'avais peur quand je me suis lancé. Et donc voilà, c'était vraiment, j'écrivais avec mes questions en tête et puis le moi d'il y a quelques années, quoi.
Alors moi je ne peux que valider, donc c'est exactement ce que tu disais, on en parlait en off. Un des futurs invités du podcast, je ne dirai rien pour laisser le suspense, mais voilà, me disait en fait, bah, c'est simple, en fait, moi en fait, quand je comprends pas un sujet, j'en fais un livre. Et en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais putain, mais c'est exactement ce que j'ai fait moi pour la créativité. J'ai commencé le podcast, je me suis dit, mais. Les gens, ils parlent de créativité, mais en fait, je dis c'est moi, mais en fait, ils comprennent rien. Enfin, je sentais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Donc, je dis bon ben, je vais interviewer des gens sur le sujet, puis on va en discuter. Et c'est là où je me suis dit, je vais récolter de la donnée, et puis ben, comme tu le disais, je vais poser en fait tout ce que je sais dans un livre, parce que c'est le bouquin en fait que j'aurais aimé avoir quand je me suis dit, je m'intéresse à ce sujet. Et je me dis, mais moi, en fait, c'est vraiment le bouquin qui m'intéresse, quoi. Alors, en plus, je devrais pas. Bon, je vais le dire. Moi, quand je relis mon livre, je me dis, putain, c'est moi, mais c'est vrai qu'il est bien. C'est bien ce que j'ai écrit, quand même. C'est vraiment bien. Mais parce que, comme je l'ai écrit pour moi, en fait, comme la première personne, c'est moi, je me dis, ah, c'est pas que je lis du contenu de qualité, mais ça fait quand même du bien de lire du bon contenu. Bon, tu te caresses l'ego et t'es totalement narcissique et égocentrique. Mais il y a ce petit plaisir, faut l'avouer, quand tu es auteur, quand tu écris tes livres, tu fais putain, mais ouais, enfin, il y a une grande fierté à se dire putain, mais ouais, je suis content, je fais putain, ce bouquin répond à toutes mes questions. Et même s'il y en a d'autres, bah, mais c'est pas grave, c'est cool, bah, ça fera un autre bouquin où je le rajouterai, mais je fais, mais ouais, j'aime bien ce bouquin parce qu'il répond à mes questions.
Ben, je suis
Donc, il
d'accord
y
avec
a
toi,
pensé que
on a la même approche, hein, je suis d'accord avec toi. Et plein d'auteurs ont ça aussi, donc Sauf que
Oui,
globalement,
c'est alors.
quand tu crées des choses, c'est bien d'être son propre public, quoi.
J'ai pris un train qui va de Toronto à Vancouver. C'est 5 000 km de train. Ça dure 5 jours. Et en fait, dans ce train-là, il n'y a pas de Wi-Fi. Et en fait, il n'y a pas non plus de 3G et de 4G parce que tu traverses les territoires du Canada, là, territoire un petit peu isolé où il n'y a personne. Et premier jour, moi qui suis ultra connecté, c'était l'enfer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce train pour 5 jours? Et même pour la petite histoire, le train, au final, a eu 24 heures de retard. Donc les retards SNCF, ça
Ah oui.
va. 24 heures de retard. Mais ça s'est super bien passé parce que du coup, j'ai rencontré une fille qui jouait du jazz avec son oncle. Et donc ça, c'était vraiment. Toutes les après-midi, on l'écoutait jouer de la musique. J'ai rencontré tous les passagers du train. Et on a fait des activités. Genre, l'activité qui m'a marqué, c'est qu'on a fait un bingo champagne. Et on joue au bingo, et quand on gagnait un verre de champagne.
Ah super, c'est bon ça.
Ouais, c'était exceptionnel. Et en plus, sur le train, il y avait des wagons qui étaient entièrement en verre, ou d'autres où il y avait le haut qui était surélevé avec une toiture en verre. Du coup, tu pouvais observer le paysage. Du coup, on se posait là, on profitait. Et du coup, c'est là que j'ai gagné mon mantra de vie. L'important, c'est pas la destination, mais c'est le trajet. Et mon deuxième mantra de vie, c'est que la vie, c'est un train. Tu rentres dans un train, il y a des gens qui vont venir. Les gens qui vont descendre, tu sais jamais qui va monter au prochain arrêt, qui va descendre au prochain arrêt. Tout ce que tu peux faire, c'est profiter au maximum de chacune des personnes et des choses que tu vas rencontrer sur le chemin.
En fait, cette image, tu vois, du train, ça me fait penser à la chanson de Grand Corps Malade, tu vois, les voyages en train. C'est exactement la même image, tu vois, et enfin, il raconte exactement la même chose, en fait, tout ce qu'il raconte.
Ah, c'est possible, je suis pas un connaisseur de Grand Corps Malade, donc je pourrais pas te confirmer. Mais voilà, ça c'est ma mission de vie et c'est ça qui m'a amené enfin à l'écriture parce que je me suis dit j'ai envie d'écrire pour ces personnes-là, pour l'impact positif, pour transmettre des choses. Et mon roman, par exemple, on parlait d'écriture que je vais écrire, bah, c'est une anticipation écologique où j'appose une critique sociale avec cette dualité des deux mondes, là où on va et là où on pourrait aller. Et c'est ça qui fait le lien en fait dans ma vie. Je fais où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on peut aller, point A, point B, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce que j'ai envie que les gens aillent. Et c'est ça, j'ai envie qu'on aille vers ces choses de l'impact. C'est l'impact positif, c'est la transition écologique, sur un mieux vivre ensemble, plus d'égalité, plus d'équité aussi. Et c'est voilà, pour ça, j'ai envie d'écrire pour ça, parce que écrire, c'est la chose où je suis le plus doué. Moi, on parlait qu'on avait changé le format du podcast. Et ben moi, c'est pareil, j'écris en intuition. J'écris beaucoup l'intuition, l'inspiration. J'ai pas de plan, j'ai pas de trucs, j'ai des grandes lignes et après j'écris comme ça. Et toute mon activité, bah, je fais souvent, c'est souvent mon mantra, c'est comme ça que je travaille. J'ai des grandes lignes, des mots-clés. Et après tout le reste, c'est sur le moment, j'écris. Et parce que j'adore ça et parce que ça vient tout seul. Tu me demanderais d'aller faire d'autres choses, des travaux manuels, bah là ça fonctionnerait moins bien parce que je suis pas très doué. Mais écrire, c'est ce que j'aime et que j'arrive à partager beaucoup de choses par l'écrit.
C'est intéressant parce que tu vois, tu dis que tu fonctionnes beaucoup à l'intuition. Alors c'est vrai que moi, de mon côté, je suis quelqu'un plutôt de très organisé, de très structuré. Et même si voilà, j'aime laisser parler cette part d'intuition, c'est vrai que moi j'aime bien, on va dire, laisser parler cette part d'intuition dans quelque chose voilà d'extrêmement cadré en fait où j'ai vraiment déterminer les contours. Toi, en fait, comment tu... bah, en fait, on parlait de texte, là, on va juste parler d'écriture. En fait, c'est vraiment l'intuition, c'est quoi? C'est, t'as une idée et tu balances, en fait, ce qui vient, en fait, devant. Ou, bah, par exemple, voilà, par exemple, voilà, t'es copywriter. Enfin, comment tu fonctionnes, justement, par rapport à l'écriture? Comment ça fonctionne?
Ouais, bah, je vais te révéler un truc que je n'ai jamais dit à personne, en fait. C'est un petit peu ma méthode. C'est la méthode des 3 I. J'ai appelé ça la méthode des 3 I. C'est la méthode que j'applique pour quasiment tout ce que je fais, toute ma vie, toutes mes activités, soit pro ou perso. C'est intuition, inspiration, improvisation. Et je rajoute même un quatrième I que j'ai mis, c'est introspection. Parce que là, il n'est pas vraiment ma méthode, il est vraiment mon amour. Parce que l'introspection, je pense que c'est la chose la plus importante à faire, c'est rechercher en soi-même, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous intéresse, quels sont nos sujets d'intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'en partant de ce principe-là, qu'en fait, on va faire quelque chose qui nous plaît à nous, et du coup, on va mettre du cœur dedans pour le créer, et du coup, on va avoir envie de le faire, et du coup, on va avoir des idées pour le faire. Et après, il y a tout ce qui est intuition. je me dis, bah ça va marcher, ça va pas marcher, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire. Et du coup, après, je me base un petit peu sur ça, et là je commence avec mon intuition, je me mets un petit plan, c'est vraiment simple, un grand titre, des petits titres, c'est tout, juste des mots-clés, peut-être un auteur, si j'ai besoin d'avoir une inspiration. Par exemple, moi dans mes publications, je donne un exemple, je mets toujours une citation. Donc je me dis, ce sujet-là, bah, il y a peut-être cet auteur-là qui a fait une citation qui peut être intéressante. Je vais regarder dans ma liste de citations que j'avais, parce que j'ai une grosse liste de citations que j'ai collectées au fil des années. Et du coup, je regarde si c'est un truc intéressant. Après, il y a le truc inspiration. L'inspiration, vraiment, là, je vais faire des petites recherches. Si c'est un sujet que je maîtrise, j'ai une base de données personnelle, où je vais regarder dans ma base de données déjà, est-ce que j'ai des informations qui sont dedans? Et sinon, je vais faire des petites recherches dans mes bouquins, dans ma bibliothèque, ou sur Internet. Si y a un truc intéressant. Et puis après, improvisation, je mets tout ça sur le papier et je me dis, je fais quoi? Ben, j'écris et puis j'écris au fil de la plume. Vraiment, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de truc que je vais raturer, que je vais recommencer. Je fais un premier jet, je le relis, je corrige les fautes, je corrige la syntaxe, je change, je rajoute les petits. Si par exemple, tu fais un article, bah, je mets les titres en gras, les machins, les petites syntaxes SEO. Si c'est sur LinkedIn, j'adapte au format. Et c'est vraiment très très improvisé parce que c'est comme ça, j'aime écrire, j'écris au fil de la plume, j'ai toujours fait comme ça. Quand je faisais mes examens à l'école, c'était comme ça aussi. Quand je faisais mes devoirs à rendre universitaire, c'était pareil. Improvisation totale, il y avait les citations, les titres, et après j'écrivais comme ça d'un coup.
Voilà, c'est la fin de cet épisode sur comment écrire et publier un livre. Si tu veux retrouver l'intégralité des interviews et donc des camarades qui sont passés dans cet épisode, tu peux retrouver les liens juste en dessous dans la description. Je voudrais encore te remercier pour ta fidélité. Alors tu vas dire, mais tu n'arrêtes pas de le répéter depuis la semaine dernière. Mais en fait, c'est vrai. Tu vois, il y a quelques semaines, on a dépassé la barre des 5000 écoutes totales, et ça, c'est grâce à toi. Donc, je voudrais vraiment te remercier. Et donc, moi, le meilleur moyen de me dire merci et de me dire que tu apprécies le podcast, bah, évidemment, c'est de t'abonner, donc, sur les plateformes d'écoute dont je t'ai parlé en début de podcast, en début d'épisode. Tu peux également partager cet épisode à quelqu'un qui a envie de stimuler sa créativité, à quelqu'un qui a envie de mieux gérer sa créativité. Et puis bah, également, tu peux t'inscrire à la newsletter parce que ça fait toujours plaisir. Ou alors, bah, tu peux venir me contacter en message privé, donc soit via la newsletter, soit bah, vers les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et je serai ravi d'échanger avec toi et de discuter créativité. La semaine prochaine, on va parler marketing. Ou un sujet qui commence à devenir légèrement épineux, même si on abordera un peu plus tard le sujet de la vente, qui est là un vrai sujet de tabou. Mais voilà, la semaine prochaine, on va parler de marketing parce que pour moi, le marketing fait partie de la créativité. Dans mon livre, Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, je considère que c'est une étape pour devenir créatif. C'est exactement de ça dont on va parler. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode et à demain matin dans ta boîte mail. Salut!